Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on parle avec vous de politique énergétique. Sur le site The Conversation, une spécialiste des questions énergétiques, Sandrine Maljean-Dubois, écrit que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat pouvait constituer un électrochoc positif. Qu'est-ce qu'elle entend par là?
Elle raisonne en termes géopolitiques. Les politiques énergétiques étaient, au niveau mondial ces dernières années, dominées par un leadership sino-américain. Trump a accusé l'accord de Paris d'être particulièrement favorable aux intérêts de la Chine et de l'Inde. Cette dernière, nouveau grand dirigé par un leader nationaliste sourcilleux, Narendra Modi, ne l'a pas bien pris. En visite d'État en France ce mois-ci, il a assuré que son pays, je cite, « irait au-delà de l'accord de Paris ». L'Inde, troisième plus gros producteur d'émissions de carbone du monde, dépend du charbon à 60% pour ses centrales électriques. Elle vient de décider de doubler sa production d'énergie d'origine nucléaire, sur laquelle elle est en retard avec seulement 22 réacteurs en service. L'Inde, il faut le savoir, consomme aujourd'hui 3 fois moins d'énergie que les États-Unis, mais elle va voir sa demande exploser dans les prochaines années en raison de sa forte croissance. La Chine de son côté a vu dans le retrait américain un moyen de démentir ceux qui prétendent que Pékin n'assume pas ses responsabilités internationales. Bref, l'Union européenne pourrait bien, sur la stratégie énergétique, redéployer ses alliances en direction des grandes puissances qui partagent les mêmes conceptions et les mêmes inquiétudes qu'elle. L'Allemagne accueillera la COP23 en novembre de cette année. Les États-Unis, deuxième pays le plus pollueur de la planète après la Chine, responsable de 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, risquent d'y faire figure d'accusé. Par ailleurs, souligne toujours Sandrine Maljean-Dubois, on ne sort pas d'un accord international négocié au cours de plusieurs années sur le coup d'un caprice et d'un simple trait de plume. Sa dénonciation officielle ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. En réalité, la décision annoncée par Trump le 1er juin ne pourra prendre effet au moment des prochaines présidentielles américaines. D'ici là, le président américain peut avoir changé d'avis, petit 1, être sur le point d'être remplacé, petit 2, à moins qu'il ne l'ait déjà été, petit 3, cocher la mention qui vous convient.
Est-ce à dire, Brice, que le retrait américain n'aura qu'une valeur symbolique, mais que les entreprises, les États fédérés, les grandes villes bloqueront Donald Trump?
Mais oui, un front du refus s'est immédiatement constitué aux États-Unis, auquel appartiennent les gouverneurs démocrates de plusieurs États, dont Jerry Brown, le gouverneur de Californie, un véritable État dans l'État. Ils ont formé une alliance pour le climat et se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur propre État de 26 à 28%. Plusieurs maires de grandes villes américaines en ont fait de même. Tous déplorent la mauvaise image des États-Unis que donne son président sur la scène internationale. Mais autre son de cloche, Björn Lomborg, qui se définit comme environnementaliste sceptique, accuse de son côté les critiques les plus féroces de Trump sur le sujet du climat et de l'environnement de tenir un double langage. Ainsi, l'ancien vice-président Al Gore déclare d'un côté qu'en se retirant de l'accord de Paris, le président américain met en danger la santé de nos enfants, mais de l'autre, il prétend que les renouvelables sont devenues tellement compétitives que l'abandon des énergies fossiles est inscrite dans la logique de l'économie de marché. Eh bien, beaucoup de spécialistes estiment en effet que les coûts de production des énergies renouvelables ont tellement baissé ces dernières années qu'elles pourraient devenir compétitives et surtout que les progrès en cours dans les technologies de stockage de l'électricité vont résoudre les sérieux problèmes posés par l'intermittence de l'éolien et du solaire. Eh bien, ce que Lomborg nie, chiffres en main. Selon lui, si des capitaux considérables ont été investis dans l'éolien et le solaire, selon lui, 125 milliards de dollars pour la seule année 2017, c'est tout simplement parce que ces sources d'énergie sont largement subventionnées par les États. Mais elles sont loin, loin d'avoir atteint le seuil de rentabilité par rapport aux hydrocarbures, surtout dans le contexte de la baisse du pétrole. Et leur contribution à la fourniture d'énergie mondiale demeure très faible, pour ne pas dire marginale. En réalité, comme l'écrit Marie-Claire Aoun, la directrice du centre énergie de l'IFRI, ce qui frappe dans le système énergétique mondial, je la cite, c'est sa grande inertie. La part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial n'a guère évolué depuis les années 1980. Et en effet, selon l'Agence internationale de l'énergie, ces énergies fossiles continue à fournir l'essentiel de la consommation d'énergie primaire de l'humanité, soit, tenez-vous bien, 85,5% du total. Un tiers pour le seul charbon, 28% pour le pétrole, 24% pour le gaz naturel, les énergies renouvelables ne couvrant, elles, que 3,2% de la consommation mondiale d'énergie, ce qui est en effet marginal. Alors, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les émissions de CO2 sont restées stables d'une année sur l'autre, malgré l'augmentation de la consommation mondiale, ce qui prouve qu'on progresse en tous les cas beaucoup du côté de l'efficacité énergétique. Cependant, beaucoup reste à faire. Selon le GIEC, il faudrait parvenir à une baisse très sensible de l'ordre de 40 à 70% selon les spécialistes des émissions pour parvenir à atteindre les objectifs de la COP21. Et il faut le reconnaître avec honnêteté, on n'en prend pas le chemin.